Bistånd klack, bistånd klack, bistånd klack. Nous aimons la chanson française. Bistånd klack, mais nous détestons les fadaises, qu'elles soient françaises ou javanaises. La balourdise, ça nous défrise. Tout ce qui est humain est nôtre, disait le coin, se pèle l'apôtre. Cette phrase est notre devise. Notre devise, bistånd klack, bistånd klack, bistånd klack. D'accord pour les chanteurs, poètes. Bistånd klack, né dans le Rhône ou à Perpète. Suffit qu'ils mettent nos cœurs en fête. La poésie n'a pas de patrie. Tout ce qui est humain est nôtre, disait le coin, ce bel apôtre. Voilà notre philosophie. Philosophie, bistånd klack, bistånd klack, bistånd klack, bistånd klack, bistånd klack.
Projet Pastoury, bonjour. Bonjour. Retrouvons aujourd'hui pour un sixième entretien en ce début d'année 2007. Et le thème que vous avez choisi en sera « Élu communiste à Bron pendant 42 ans ».
Je pense que le chiffre 42 ans est un bilan assez particulier, puisque je suis le seul élu à Bron qui jusqu'ici siégeait 42 ans dans cette municipalité. Il y a une plaque à la mairie où se trouve la liste de tous ceux qui étions en poste au moment où cet hôtel de ville a été inauguré. Je regarde cette liste, nous étions 32 et je suis le seul survivant qui reste. Ça m'émeut, mais en même temps ça me tranquillise. Peut-être m'a-t-on oublié. Et lorsque l'on parle d'élus communistes, j'ai bien situé élus communistes. Parce que je pense qu'être élu communiste, c'est quelque chose de particulier. C'est quelque chose de particulier par rapport aux valeurs qui sont les nôtres, par rapport à l'idée que nous nous faisons des autres, par rapport à la conscience que nous avons que dans cette société, il y a beaucoup de misère, il y a beaucoup de détresse, et il faut être là pour soulager. Élu communiste, je le disais, je pense que c'est à la fois aimer et comprendre. C'est ne pas se cloisonner dans sa sphère d'élu. Il y a autre chose. Lorsque les gens viennent vous voir, c'est pas simplement pour des problèmes d'ordre municipal. Ils ont besoin de trouver quelqu'un qui les entende, qui les écoute, et lorsqu'il le peut, qu'il les aide. C'est ce qui fait la caractéristique d'un élu communiste. Et c'est un travail, disons, de formation. Je me souviens à un moment où je tenais mes permanences et où les gens se pressaient, attendaient. Il y avait des fois 20, 30, 40 personnes. C'était mes rendez-vous du lundi à l'hôtel de ville de Bron. Et ces gens venaient pour n'importe quoi. Ils venaient pour des questions de municipalité, mais aussi pour des questions de tout ordre. De tout ordre. Que ce soit des problèmes de famille, que ce soit des problèmes de société, que ce soit des difficultés qu'ils avaient dans une procédure judiciaire ou autre. Et j'étais là. J'étais là à les recevoir et avec les possibilités immenses qui sont celles d'un élu. J'étais installé à mon bureau. Telle personne venait pour une question, mettons, de droit, une question d'avocat. Je cherchais tout de suite l'avocat qui m'était demandé. Et j'appelais une secrétaire administrative. Quand on est premier adjoint comme j'étais, tous les cadres de la ville étaient à ma disposition. Il suffisait que je donne un coup de téléphone et immédiatement la secrétaire était là dans mon bureau et me demandait qu'est-ce qu'il y avait à faire à mon service. Et là je disais, vous téléphonez à tel avocat, vous téléphonez à tel personnel, vous téléphonez à telle personne. Et par cette relation, j'essayais de créer un relais entre la personne qui attendait une réponse de moi et une suite donnée à sa démarche, pour que ça aboutisse à quelque chose. C'est cela qui faisait la spécificité, qui m'était un peu particulière et qui m'a conduit à encourager mes camarades à procéder de la même chose. Une fois, j'étais à une permanence avec l'un de mes camarades et personne ne venait. Une ou deux personnes sont venues et ce camarade a dit « Oh, mais ici, ça concerne pas des affaires municipales, ça. C'est pas à cette porte qu'il faut frapper, il faut voir ailleurs. » J'ai laissé faire, j'ai écouté, j'ai pas voulu faire de réflexion, mais j'ai conseillé à mon camarade ensuite d'écouter et d'essayer d'utiliser les moyens qui étaient les nôtres pour donner une suite favorable à toutes les demandes. C'est cela, je pense, c'est cela qui fait la particularité de l'action d'un élu communiste.
Les sabots d'Hélène étaient tout crottés, les trois capitaines l'auraient appelée vilaine, et la pauvre Hélène était comme une âme en peine, ne cherche plus longtemps de fontaine, toi qui as besoin d'eau, ne cherche plus aux larmes d'Hélène, va t'en remplir ton seau, moi j'ai pris la peine de les déchausser, les sabots d'Hélène, moi qui ne suis pas capitaine, et j'ai vu ma peine bien récompensée dans les sabots de la pauvre Hélène, dans ses sabots crottés. Moi j'ai trouvé les pieds d'une reine et je les ai gardé, son jupon de laine était tout mité. Les trois capitaines l'auraient appelée vilaine, et la pauvre Hélène était comme une âme en peine, ne cherche plus longtemps de fontaine, toi qui as besoin d'eau, ne cherche plus aux larmes d'Hélène, va t'en remplir ton seau, moi j'ai pris la peine de le retrousser, le jupon d'Hélène, moi qui ne suis pas capitaine, et j'ai vu ma peine bien récompensée sous le jupon de la pauvre Hélène, sous son jupon mité. Moi j'ai trouvé des jambes de reine et je les ai gardées, et le cœur d'Hélène ne savait pas chanter. Les trois capitaines l'auraient appelée vilaine, et la pauvre Hélène était comme une âme en peine, ne cherche plus longtemps de fontaine, toi qui as besoin d'eau, ne cherche plus aux larmes d'Hélène, va t'en remplir ton seau, moi j'ai pris la peine de m'y arrêter. Dans le cœur d'Hélène, moi qui ne suis pas capitaine, et j'ai vu ma peine bien récompensée. Et dans le cœur de la pauvre Hélène, qui avait jamais chanté, moi j'ai trouvé l'amour d'une reine, et moi je l'ai gardé.
Logement, moyens de communication, transport, tout ce qu'ils me demandaient, je me suis efforcé de leur apporter une aide. Et ça, c'est quelque chose qui vous marque, parce que ces gestes-là, ça ne s'oublie pas. Ça ne s'oublie pas, j'en ai le témoignage encore aujourd'hui. Il m'arrive dans le tramway, qu'on me tape à l'épaule, c'est des personnages que je connais plus. Mais Monsieur Pestouri, oui, je suis Monsieur Pestouri. Ou je vous me rappelle, je suis venu à votre bureau, je suis venu à la mairie, au moment de telle situation qui était la mienne. Et puis vous m'avez rendu tel et tel service. Moi, je m'en rappelle plus, mais eux, ils se souviennent. Je pense que c'est ça, la solidarité. C'est ça, le regard des autres. Et c'est ça, l'accomplissement d'une tâche d'élu. Je dois dire aussi que lorsque on a la population, lorsque on est comme, on nous appelle un homme public, il faut avoir cette attention des autres, mais à la mesure de tout ce qui se passe dans une famille, dans une existence, c'est-à-dire partager les joies et les peines. Je me rappelle que j'attachais beaucoup d'importance à un mariage, par exemple. Lorsqu'il y a un mariage dans une famille, c'est un événement. C'est un événement extraordinaire. Il y a les invités, il y a l'affection, il y a les gens qui s'embrassent, il y a l'amour qui triomphe. Et là, à chacun de mes mariages, j'en ai fait des centaines, chaque fois, je me préparais à savoir cette famille, ce qu'elle était, les conditions de ce mariage, et chaque fois, je préparais un petit discours. Un petit discours, il semblait que c'était improvisé, mais c'était bien préparé dans ma tête. Et ensuite, je faisais taper ce discours par une collègue de la Sécurité sociale, et ce discours, je le remettais à la famille.
Mariage d'amour, mariage d'argent. J'ai vu se marier toutes sortes de gens, des gens de basse source et des grands de la terre, des prétendus coiffeurs, des soi-disant notaires. Quand même je vivrai jusqu'à la fin des temps, je garderai toujours le souvenir content du jour de pauvres noces où mon père et ma mère s'allèrent épouser devant Monsieur le maire, c'est dans un charabeu, s'il faut pas...
Je suis arrivé à Bonn en 1945. Il y avait déjà eu les élections municipales à ce moment-là. Et ces élections municipales s'étaient faites sans la présence des prisonniers de guerre qui n'étaient pas encore rentrés. Et il s'est trouvé que le camarade Lacroix, c'est Lacroix qui, à la Libération, était le président du comité de libération de Bonn, et ce Lacroix très modeste, un homme qui a fait beaucoup, un homme qui était une grande figure, eh bien cet homme a été effacé. Il a été effacé parce que il se situait à gauche, mais il n'avait aucune appartenance politique. Et à ce moment-là, il y avait déjà les clivages politiques, et mon ami André Lacroix s'est trouvé effacé et a disparu en quelque sorte. Il a vécu très longtemps, pas loin de chez moi ici, nous nous rencontrions, il était toujours aussi modeste, et lorsqu'il est décédé, j'ai regretté que ce personnage soit si peu connu à Bonn. Actuellement, il y a une procédure qui a lieu pour lui donner une plaque ou un nom de rue. Je me suis associé à cette démarche. Donc, Monsieur Lacroix, première élection, est effacé de cette municipalité. L'ancien maire, c'était Monsieur Douillet, et Monsieur Douillet, c'était le maire de Vichy. C'était le maire de Vichy. C'est un personnage que je connaissais pas, bien sûr. J'avais eu écho. Je savais que, à la Libération, il avait été destitué. Je savais que des violences avaient été faites à son égard. et ce monsieur Douillet s'est trouvé être candidat en 1947, lorsque j'ai été candidat moi-même à la municipalité. Et il a été élu avec un nombre considérable de voix. Je crois qu'il était en tête de tous les candidats, je ne me souviens pas. Mais ce que je sais, c'est cette violence qui a fait suite à cette élection. Il a été pratiquement expulsé de l'hôtel de ville lors de la première séance du conseil municipal. On lui crachait à la figure, salaud, collabo, assassin. Et moi, je gardais mon sang-froid. Je regardais cet homme, je disais tout de même, nous sommes en 1947, il n'y a plus de danger, même si c'était un danger public, actuellement, il ne représente plus un danger. Et c'est aussi un homme. Comment peut-on ainsi cracher à la figure d'un personnage? Et ça m'avait beaucoup marqué, et M. Douillet avait remarqué. Il avait remarqué ma manière de me conduire à cette occasion. Et quelque chose qui m'a beaucoup impressionné, c'est que lorsqu'il est décédé, il avait fait un texte où il relatait toute son activité sous le règne de Vichy. Il relatait tout cela. Et dans ce texte qu'il faut que je retrouve, parce que ça fait partie de mes documents, mais c'est actuellement égaré, il y a une soixantaine de pages, et M. Douillet explique comment lui, qui était à ce moment-là employé de la préfecture, a exercé ses fonctions de maire, et comment, dans la mesure du possible, il a aidé ses compatriotes de Bron. Lorsqu'ils étaient traqués, lorsqu'ils étaient pourchassés, lorsqu'il y avait des démarches à faire, tout en étant vichiste, tout en étant apparemment collabo, il s'est trouvé à une situation où il a pu, disons, peut-être sauver des vies de personnes. Et il m'explique tout cela. Il m'explique dans ce texte toutes ces difficultés qui étaient celles d'un maire sous l'occupation et comment on pouvait à la fois être maire et français. Et lorsque il avait fait ce document, lorsqu'il s'est trouvé sur son lit de mort, il a dit à sa femme, tu iras remettre ce document à monsieur Pestoury, parce que c'est le seul personnage à Bron qui pourra me comprendre et qui pourra peut-être écrire un jour ce que j'ai fait sous l'occupation. Et vous savez, ces crachats, ça me faisait penser à la libération, à tous ces gens qui étaient sur le trottoir, y compris ici à Bron, comme j'en ai eu l'écho, ces gens qui hier étaient pétainistes, étaient collabos, et qui le lendemain étaient gaullistes, ou même socialistes ou communistes, et c'était les plus bruyants, et c'est cela qui prenait les femmes, qui tendait les femmes, tendre une femme publiquement, quelle honte, quelle monstruosité. C'est l'image terrible qui m'est restée de la libération. Tendre une femme, la tente des femmes. Et ça, M. Douillet, ces femmes tendues, lui recevant ses crachés à la figure, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué dans la vie, dans la démarche militante qui est la mienne. J'ai toujours eu ce souci des autres, ce souci de comprendre pourquoi les autres avaient exercé telle et telle tâche ou tel et tel pouvoir, et dans quelles circonstances ils s'étaient trouvés pour peut-être, dans une certaine mesure, faire quelque chose qui représente ce besoin de l'humanité.
La belle qui couchait avec le roi de Prusse, avec le roi de Prusse, à qui l'on a tondu le crâne rasibus, le crâne rasibus. Son penchant prononcé pour les ichlibediches, pour les ichlibediches, lui valut de porter quelques cheveux postiches, quelques cheveux postiche. Les braves sans culottes et les bonnets phrygiens, et les bonnets phrygiens ont livré sa crinière à un tondeur de chien, un tondeur de chien. J'aurais dû prendre un peu parti pour sur sa toison, parti pour sa toison. J'aurais dû dire un mot pour sauver son chignon, pour sauver son chignon. Mais je n'ai pas bougé du fond de ma torpeur, du fond de ma torpeur. Les coupeurs de cheveux en quatre m'ont fait peur, en quatre m'ont fait peur. Quand pire qu'une brosse, elle eût été tondue, elle eût été tondue. J'ai dit c'est malheureux, ces accroche-cœurs perdus, ces accroche-cœurs perdus. Et ramassant l'un d'eux qui traînait dans l'ornière, qui traînait dans l'ornière, je l'ai comme une fleur mise à ma boutonnière, mise à ma boutonnière. En me voyant partir, arborant mon toupet, arborant mon toupet, tous ces coupeurs de nattes m'ont pris pour un suspect, m'ont pris pour un suspect. Comme de la patrie, je ne mérite guère, je ne mérite guère. J'ai pas la croix d'honneur, j'ai pas la croix de guerre, j'ai pas la croix de guerre. Et je n'en souffre pas avec trop de rigueur, avec trop de rigueur. J'ai ma rosette à moi, c'est un accroche-cœur, c'est un accroche-cœur.
Je ne connaissais pas Bron, et puis voilà qu'en 1947, je me trouve candidat. Je me trouve candidat pour la première fois dans une élection politique, et celui qui conduisait la liste du Parti communiste, c'était mon camarade Gaston Morin. Gaston Morin, c'était déjà l'emblème de la résistance. C'est l'homme qu'il fallait à ce moment-là. Parce que, après la libération, il y a eu cette identification de ce qu'avait été la résistance. Et Gaston Morin correspondait à cela. Il était ancien résistant, il avait été interné à Montluc, et c'était un personnage qui avait un dévouement extraordinaire. Il y avait dans notre liste aussi Galbi, qui était connu comme un grand résistant ici à Bron. Enfin, nous étions une équipe, et ce premier tour, cette première élection municipale, avec Gaston Morin qui conduisait notre liste, j'étais son second, nous nous sommes trouvés avec 7 élus sur 27. C'était déjà un succès. C'était déjà un ancrage du Parti communiste ici dans cette population de Bron. Et puis ensuite, les événements se sont poursuivis, le militantisme a fait ses choix, et il s'est trouvé qu'en 1953, aux élections suivantes, c'est moi qui conduisais la liste des candidats communistes ici à Bron. Dans la municipalité, à ce moment-là, il y avait, je me rappelle, c'était, il me semble me souvenir, Monsieur Ledoux, qui avait été, à qui avait succédé Olivier, puis ensuite Monsieur Béfieux. C'est toute cette liste. Ledoux était au Parti Socialiste, mais à ce moment-là, il y avait une collusion étroite entre les socialistes et la droite. Ça formait en quelque sorte une même équipe. Et tantôt les uns, tantôt les autres prenaient la tête de la municipalité. Nous nous trouvions donc dans cette municipalité où nous, en tant que candidats communistes, nous avions cette caractéristique d'être seuls et de représenter véritablement la gauche. Et à cette élection, en 1953, nous avons eu 8 élus. De 7, nous sommes passés à 8 élus. En 1959, les élections qui ont suivi, là, c'était quelque chose de tout à fait particulier. Je parlais de la guerre froide. Cette guerre froide avait obtenu ses résultats, disons à 100%, parce que ça a été l'année où il fallait, d'une façon ou d'une autre, faire disparaître le Parti communiste français. Et pour faire disparaître le Parti communiste français, on avait trouvé rien d'autre que de créer ce qu'on appelait les apparentements. Les apparentements, qu'est-ce que c'était? Ça veut dire que vous aviez une liste, vous apparteniez à une liste, mais cette liste était apparentée à une autre liste. Et lorsque ces listes regroupées représentaient 50% des électeurs, elles récupéraient tous les sièges. C'est comme ça qu'ici à Bonn, les socialistes et la droite se sont apparentés, et nous nous sommes trouvés isolés, et même si nous avons augmenté en voix, au lieu de 8 élus, nous en aurions eu 9, eh bien, nous avons été battus, nous n'avions aucun élu à la municipalité. Voilà comment nous avons été chassés de la municipalité de Bonn en 1959 par cette collusion de la droite, de la gauche, du Parti socialiste, de la droite et de l'extrême droite. Et ça, c'était pour moi une réflexion, c'était pour moi un enseignement. Ces six années m'ont permis la réflexion, elles m'ont permis de mieux connaître ma ville, de mieux connaître ce qu'était la politique. Et dans le combat que je menais, j'ai pas déserté, je me suis pas réfugié dans un peu l'humiliation d'avoir été battu. J'ai dit non, on a une équipe, on a un parti très solide ici à Bonn. Il faut poursuivre ce combat et il faut engager les élections de 1965. Et en 1965, une chose extraordinaire s'est produite, c'est que je conduisais une liste, la liste du Parti communiste, avec de très bons candidats. Et cette liste, c'est exceptionnel. Parce qu'il y avait quelque chose d'exceptionnel aussi à ce moment-là. Il y avait ce qu'on appelait le vote préférentiel. Vous voyez, aux apparentements, on avait substitué le vote préférentiel qui était quelque chose tout à fait différent. Ça veut dire que si vous étiez candidat sur une liste, j'étais candidat sur la liste du Parti communiste français, on pouvait rayer un nom d'une autre liste et mettre le nom d'un candidat du Parti communiste français, et vice-versa. Celui qui votait communiste, il pouvait rayer un nom de la liste communiste et ajouter un ou deux ou trois noms des listes adverses. Ça veut dire que c'était un suffrage individualisé. Et lorsqu'il y a eu le résultat, je me souviens toujours de cette réunion à l'hôtel de ville, il s'est trouvé que Roger Pestouri et Madame Charcosset sont arrivés en tête de tous les candidats avec 42 ou 43% des voix. Voilà, nous nous trouvions en tête, ça veut dire que Pestouri, qui devançait de 500 voix ses camarades, je crois qu'ils avaient obtenu, nous avions une moyenne de voix de 3500, je crois, nous sommes arrivés, enfin 35%, nous sommes arrivés, et je suis arrivé à 40%, bref. Et il s'est trouvé que j'étais le seul élu de ma liste, mais que, les circonstances étant celles-là, le maire sortant, qui était Monsieur Béfieux, fut battu. J'ai battu le maire. Moi, je me suis trouvé avec le plus de voix de ma liste. Lui, il s'est trouvé avec le moins de voix de sa liste, avec des centaines de voix de moins que j'avais obtenu moi-même, et il s'est trouvé battu. Vous voyez une municipalité, un soir de vote, ce cadre exceptionnel, ici à Bonn, où le maire sortant est battu, où Pestouri, le communiste, est élu, et où le désarroi se crée dans la liste de M. Béfieux, parce qu'à ce moment-là, il se demandait qu'est-ce qui allait se passer. Et ça a créé une situation tout à fait bizarre, parce que dans la rue, on m'appelait « Bonjour, monsieur le maire, bonjour, monsieur le maire ». J'ai dit « Mais je suis pas maire, je suis le seul élu de ma liste ». Mais il n'empêche que lorsqu'il y a eu la délibération pour élire la municipalité, pour élire le bureau municipal, comme M. Béfieux avait été battu, c'est M. Brissy qui a été choisi comme maire de Bonn. M. Brissy a été choisi par la droite, puisque droite et gauche, les apparentements, ça ne faisait qu'un. Et M. Brissy sentait bien que dans son entourage, il y avait non seulement la droite, mais il y avait la corruption. C'était au moment de l'immobilier à Bron, au moment où il y avait les rues sans viabilité, où il y avait aucun plan d'urbanisme. C'était le moment où certains élus dans les cafés recevaient les enveloppes des promoteurs, parce que quand vous faites monter un immeuble à 3 étages, si vous donnez une autorisation pour monter à 5 étages, qu'est-ce que ça fait aux promoteurs de vous donner une villa, de vous construire une villa? C'est ce scandale qui existait à Bron, et tout le monde savait que j'étais au courant de ces choses-là.
Il suffit de passer le pont, c'est tout de suite l'aventure. Laisse-moi tenir ton jupon, je t'amène visiter la nature. L'herbe est douce à Pâques fleurie, jetons mes sabots, tes galoches, et légers comme des cabris, courons après les sons de cloche. Ding ding dong, les matines sonnent en l'honneur de notre bonheur. Ding ding dong, faut le dire à personne, j'ai graissé la patte au sonneur. Laisse-moi tenir ton jupon, courons guilleur et guillerette. Il suffit de passer le pont, et c'est le royaume des fleurettes. Entre toutes les belles que voici, je devine celle que tu préfères. C'est pas le coquelicot, Dieu merci, ni le coucou, mais la prime verte. J'en vois une blottie sous les feuilles, elle est en velours comme tes joues. Fais le guet pendant que je l'accueille, je n'ai jamais aimé que vous. Il suffit de 3 petits bonds, c'est tout de suite la tarentelle. Laisse-moi tenir ton jupon, j'aurais ménagé tes dentelles. J'ai graissé la patte au berger pour lui faire jouer une aubade. L'or m'a mis sans croire au danger, faisons 1001 gambades. Ton pied frappe et frappe la mousse, si le chardon s'y pique dedans, ne pleure pas mamie qui souffre, je te l'enlève avec les dents. On n'a plus rien à se cacher, on peut s'aimer comme bon nous semble, et tant mieux si c'est un péché, nous irons en enfer ensemble. Il suffit de passer le pont, laisse-moi tenir ton jupon. Il suffit de passer le pont, laisse-moi tenir ton jupon.
Et M. Brissy se trouvait à la tête de cette municipalité avec certains de ses équipiers dont il savait bien, comme moi, le trafic qui avait été le leur pendant ces années où ils avaient exercé leur pouvoir. Ça le mettait quand même mal à l'aise. Et il a demandé à un moment que je sois un de ses adjoints. Ils m'ont posé la question et j'avais pas l'avis de mes camarades, mais j'ai répondu publiquement que j'étais prêt à assumer toutes les responsabilités à partir du moment où j'étais un des élus qui avait le plus de voix dans cette ville. Et la droite ne s'y est pas trompée, l'extrême droite, ils ont demandé une suspension de séance. Et lorsque la séance a repris, alors les choses étaient réglées, et ils ont mis un autre candidat à ma place, qui a été élu à ma place. Et alors cet autre candidat se trouvait être un Arménien qui avait connu ce qu'était le génocide arménien. Vous savez, dans la mémoire des Arméniens, il y a beaucoup le souvenir de ce génocide, et pour Pestouris, pour lui, Pestouris représentait quelque chose, parce que j'avais condamné ce génocide, j'avais défendu cette catégorie de gens, beaucoup d'Arméniens qui se trouvaient à ce moment-là. Et le soir même de l'élection, le lendemain, il démissionne parce qu'il a dit qu'en aucun cas, il ne voulait prendre la place de M. Pestouris, et il m'a envoyé une lettre et un livre sur ce qui s'était passé en Arménie avec ce génocide. Ça m'a aussi beaucoup touché. Voilà un peu comment M. Brissy s'est trouvé à la tête de cette municipalité, mais comme il était socialiste, il y a eu une ambiguïté qui s'est créée, parce que j'étais le seul élu de l'opposition, puisque tous les autres étaient regroupés, étaient coalisés, mais je voulais pas être négatif. Et alors il se trouvait que comme M. Brissy, des liens, disons d'amitié, il était socialiste, des liens d'amitié s'étaient créés entre nous, surtout à partir du moment où il avait fait cette tentative de me mettre parmi ses adjoints. Il s'est trouvé que quand nous étudions, quand le moment était venu de travailler sur le budget communal, c'est M. Blessy et moi-même qui faisions le budget communal de la ville. On travaillait tous les deux.
Et finalement, vous avez été adjoint après cette démission ou pas?
Non, j'ai pas été, pas du tout. J'étais l'élu de l'opposition, j'étais pas adjoint, mais j'étais complice de M. Blessy, qui était le maire de la droite, en quelque sorte, pour essayer de négocier des choses positives, pour travailler un peu la main dans la main, socialiste et communiste, parce que c'était un peu mon objectif. Et il s'est trouvé que moi, construisant ce budget avec M. Blessy, lorsqu'il y avait le vote du budget, je pouvais pas quand même avoir fabriqué ce budget et voter contre. Et je votais pour ce budget. Je votais, j'expliquais, je disais pas que c'est moi qui avais, avec M. Blessy, construit ce budget, mais je disais, dans ce budget, il y a l'écho de ce qui relève des besoins de notre population, il y a ci, il y a ça. Et alors, ça soulevait quand même quelques difficultés dans mes propres rangs, chez mes camarades communistes, comme j'étais le seul élu. Et certains camarades jugeaient mal, ils disaient, mais enfin, t'es dans l'opposition, tu votes le budget. Comment tu peux mener le combat qui était celui de notre groupe? Et moi, j'avais ce regard beaucoup plus lointain. Mon regard plus lointain, c'était de faire l'union de la gauche, de réaliser les conditions pour l'union de la gauche.
Cette pauvre poignée de main gisée, oubliée en chemin par deux amis fâchés à mort, quelque peu décontenancée, elle était là dans le fossé, je la recueillis sans remords, et je repris ma route avec l'intention de faire circuler la virile effusion, car c'est une des pires perversions qui soit de garder une poignée de main par-devers soi. Le premier m'a dit fou le camp, j'aurais peur de salir mes gants. Le deuxième d'un air dévot me donna 100 sous d'ailleurs faux. Si le troisième ours mal léché dans ma main tendue a craché, le quatrième, c'est plus méchant, se mit en quête d'un agent. Car aujourd'hui c'est saugrenu, sans être louche on ne peut pas serrer la main des inconnus. On est tombé bien bas, et la pauvre poignée de main, victime d'un sort inhumain, alla terminer sa carrière à la fourrière.
Et à partir de 1965, où j'ai été élu, où j'étais le premier élu, le seul communiste élu à la municipalité, à ce moment-là, j'ai travaillé à ce regroupement. Et je disais, il faut arracher le Parti Socialiste à l'emprise de la réaction. Il faut ramener le Parti Socialiste dans les rangs de la gauche. Et avec M. Blessy, j'essayais de le convaincre qu'il fallait qu'il en vienne à cette réalité. Et lorsqu'en 1971, les élections sont survenues, j'avais l'espoir que M. Blessy prendrait la tête de cette liste d'union de la gauche. Et M. Blessy n'a pas accepté. Il n'a pas accepté pour des raisons personnelles, parce que il était vice-président de la Courlie à ce moment-là, maire de Bron. Et il m'a dit, vous savez, ça, si je prends la tête de liste de la gauche, ça met en cause toute ma condition sociale, parce que non seulement je perds mes attributions, ma délégation de maire, mais comme je suis vice-président de la Courlie, et dans mon ménage, ça crée pas mal de difficultés, enfin bref. Il n'a pas accepté, il a dit, je peux pas accepter, j'ai conduit la liste, je vais continuer à conduire la liste de, comme je l'ai fait la dernière fois. Et c'est comme ça que je me suis trouvé un peu démuni, un peu désemparé, et je suis allé trouver Talvar. Talvar, c'était un progressiste, un chrétien, mais un chrétien de gauche, très honnête, qui était ingénieur dans une entreprise. Et je lui avais dit, je lui avais demandé de conduire la liste d'union de la gauche que je pensais constituer en 1971. Et Talvar a accepté. Il a accepté, il a dit, mais Roger, d'accord, ça va. Alors, j'étais content parce que on avait déjà une perspective, on n'avait pas Monsieur Brissy, mais on avait Talvar, un personnage qui était disponible, qui avait les qualités requises pour prendre cette responsabilité. Et puis, il s'est trouvé que, un mois avant les élections, Talvar vient me voir, je travaillais à la Sécurité sociale, j'en étais le directeur, et il me dit, Roger, je peux plus être candidat. Je peux plus conduire la liste, parce que mon entreprise, où je travaille comme un ingénieur, m'a dit, si vous conduisez la liste de la gauche à Bron, vous serez licencié. Si vous conduisiez une liste de droite, ça serait un privilège pour nous, mais si vous prenez la tête de la gauche, vous claquerez, vous serez mis à la porte de cet établissement. Et il a dit, Roger, je peux pas quitter mon travail, je peux pas me faire licencier. Et alors nous nous sommes trouvés, et il m'a dit, c'est toi qui dois conduire la liste et tout. Et moi, j'avais une difficulté parce que ma femme était surtout hostile à cette que je prenne la liste, parce que j'étais déjà usé physiquement, malade, plus ou moins, et elle était très inquiète là-dessus, ça, disons, ça créait quand même quelques problèmes particuliers, et puis d'autre part, comme j'avais la sécurité sociale, la direction de ce centre, avec 42 employés à ce moment-là, je pouvais pas lâcher ça, parce que si j'avais été maire de Bron, j'aurais pas pu faire les fonctions de responsable du centre de sécurité sociale. J'aurais gardé ma qualification, mais on m'aurait muté à Lyon, à la caisse centrale. Je pouvais pas assurer, c'était incompatible d'assurer la double fonction. Et je pouvais pas quitter mes collègues de travail, je pouvais pas quitter cette activité professionnelle. Et c'est comme ça qu'on a été chercher Souzy, André Souzy, qui connaissait rien à la vie municipale. On a été le chercher comme ça, comme des gens qui vont à la pêche, faut qu'on trouve une tête de liste et tout. Et lui, comme c'était un ancien résistant, que c'était, on le connaissait comme socialiste, nous lui avons fait cette proposition et il a accepté. C'est comme ça que, le soir des élections, en 1971, la gauche s'est trouvée battre la droite. Et hélas, cette droite, qu'est-ce qu'il y avait à la tête? Monsieur Brissy. Et là, c'est pareil. C'est douloureux pour moi parce que l'estime que j'avais pour cet homme, je connaissais sa sensibilité, je connaissais ses idées et je connaissais aussi sa complicité avec les autres. Mais l'homme, quand on gratte, il y a chez l'homme, il y a toujours quelque chose de profond, quelque chose qui est, je dirais, d'humain, où on sent l'attachement à des valeurs qu'on pouvait partager et l'attachement à cette gauche puisqu'il était au Parti socialiste. Et cet homme battu, cet homme que nous venions de battre, que je venais de battre en particulier, puisque j'avais été un peu le promoteur de cette union de la gauche, ça a été terrible pour moi. J'étais dans cet hôtel de ville où on vient me trouver. Monsieur le maire demande à vous voir. Et cet homme que je respectais, qui avait beaucoup plus âgé, il pleurait, cet homme, il pleurait, monsieur Brissy, il pleurait. Vous vous rendez compte un peu? Et il m'a dit, Roger, je suis battu. C'est triste pour moi. Mais il y a une chose que je voudrais, que vous gardiez quand même un bon souvenir de moi. Et je vous donne mon écharpe en souvenir. Et il m'a donné son écharpe de maire que j'ai toujours ici, dans ma collection, parmi toutes ces pièces à conviction que j'ai. Et ça m'a beaucoup touché. Et j'aurais tellement voulu qu'il soit avec nous, qu'il vienne, puisque son parti était venu avec nous. Et que lui, il avait fait coup double. Il était dans son parti, mais il était ailleurs. Et voilà, ça s'est trouvé comme ça. Monsieur Brissy battu et Monsieur Souzy élu maire de Bron. Et c'est comme ça que la gauche s'est installée à Bron. Alors, j'étais premier adjoint, bien sûr, et nous avons fait un travail un travail formidable. Nous avons donné l'image, la marque de ce qu'était la gauche à Bonn. Nous avons donné la marque, nous avons créé un plan d'urbanisme, il y a les lois d'urbanisme qui ont été votées, il y a eu, nous nous étions entendus avec M. Souzy de ne jamais recevoir personne parmi les promoteurs de l'immobilier sans qu'on s'appelle, sans qu'il y ait la commission qui se réunisse, sans qu'il y ait pression pour essayer de récupérer, de ternir, de faire prévaloir l'argent sur tout le reste. Et ça, nous avions pris des précautions et je pense que les gens de Bonn ont compris ces choses-là. Ils ont compris notre honnêteté, notre propreté, et nous avons fait des plans d'urbanisme, des plans de reconstruction. Nous nous sommes cassés la figure une fois, nous nous sommes cassés la figure, et là c'est une leçon. Nous avions fait un plan d'urbanisme pour le centre de Bonn. Et il se trouvait que dans ce plan d'urbanisme, il y avait des constructions, il y avait des équipements publics, il y avait des commerces qui devaient s'installer, mais il y avait beaucoup de petites villas. Et sur ce plan d'urbanisme, sur ce tracé d'urbanisme, il s'est trouvé que certaines de ces villas se seraient trouvées menacées. C'était pas une certitude, mais le fait de créer ce système, disons, qui était comme une menace qui pesait sur la propriété privée de gens qui avaient travaillé toute leur vie, avoir leur petite villa, leur petit jardin. Là, nous avons été très maladroits. Nous nous sommes cassés la figure. Et là, c'est pour vous dire que on peut être glorieux la veille, mais on peut être dans le fossé le lendemain. Il y a eu une réunion de tous ces gens. Cette population, je vois toujours cette salle pleine à craquer, à Bonn, des centaines et des centaines de personnes. Et nous étions à l'estrade avec M. Souzy, et il y avait une dame âgée qui avait un parapluie, et elle tapait de parapluie. Elle tapait, et je disais à Souzy, si notre tête était dessous son parapluie, eh bien, on serait marqué quand même, marqué à vie. Et alors les gens, il y a eu le débat, et Souzy défendre la ZAD et tout. Puis à un moment, j'ai demandé la parole. J'ai dit, écoutez, je comprends vos inquiétudes. On a fait une erreur. Même si c'est la gauche, nous avons fait une erreur. Premièrement, nous aurions dû vous consulter avant de créer ce plan d'urbanisme. Et vous n'avez pas été consulté. Et vous venez ici protester et vous avez peur que vos petites maisons, vos petites villas disparaissent tôt ou tard. C'est une menace, c'est pas une certitude que cette réalité ne pourrait pas se produire. Eh bien, vous voulez pas de la ZAD, il n'y en aura pas de ZAD. Et c'est comme ça. C'est comme ça que les gens ont applaudi, que je me suis trouvé avec une popularité renforcée. Pestouri nous a sauvés de cette situation. Mais ça, c'était une erreur de fonctionnement. On était tellement enthousiastes, vous voyez, on voulait aller tellement loin, tellement fort, faire tellement mieux, qu'on a été pris à notre propre piège. Et ça aussi, c'est une expérience. C'est l'expérience que j'ai gardée de ce temps du pouvoir que nous avions, de ce temps où nous exerçant ses fonctions ici à Bonn. Et là, je voudrais dire que avec mon ami Souzy, c'était un bon camarade, mais il était très impulsif, un peu comme moi. Et tous les lundis, nous nous réunissions là-bas à l'hôtel de ville et nous n'étions pas toujours absolument d'accord. Et il y avait des fois des bagarres. Et quand ça allait mal entre nous deux, le dimanche, nous allions à Sarcey, parce que Madame Pestouri et Madame Souzy étaient, disons, c'était des amis. Vous savez, quand on est élu, on est toujours en réception, on avait des jumelages, on était en Allemagne, on était en Écosse, on était à Grimont, en RDA, on était en Angleterre, et ça crée des liens d'amitié. Et lorsque, entre mon ami Souzy et moi, les choses marchaient mal, nous allions le dimanche à Sarcey, Madame Suzy préparait un bon repas. J'arrivais avec ma femme et nos femmes disaient « Surtout ne parlez pas de politique ». Et la réconciliation venait le lundi. Voilà comment je fonctionnais avec ce brave homme qui s'appelait André Suzy. Et je me rappelle une fois, c'était... nous nous étions... affronté avec peut-être plus de brutalité qu'ailleurs, et moi aussi avec mon caractère, je tape du poing sur la table, j'ai pas tapé cette fois, ça se verra pas dans le micro, hein. Vous voyez, je tape du poing sur la table et dis, cette fois c'est fini, je m'en vais, je mets plus les pieds ici. Et Suzy est venu, quand j'ai ouvert la porte, il m'a dit, écoute Roger, je préfère perdre mon poste de maire que perdre notre amitié. Vous voyez, ça c'est des liens. C'est des liens qui sont très 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 forts, ça.
Sans ces cheveux qui volent, j'aurai dorénavant des difficultés folles à voir d'où vient le vent. Tout est bon chez elle, y a rien à jeter. Sur l'île déserte, il faut tout emporter. Je me demande comment subsister sans ses joues, m'offrant de belles pommes nouvelles chaque jour. Tout est bon chez elle, y a rien à jeter. Sur l'île déserte, il faut tout emporter. Sans sa gorge, ma tête dépourvue de coussins reposerai par terre et rien n'est plus malsain. Tout est bon chez elle, y a rien à jeter. Sur l'île déserte, il faut tout emporter.
Mais je voulais quand même finir sur quelque chose. Quand je parle d'élus, j'ai été élu député suppléant en 1962. Et en 1962, là, ce qui veut dire que en 1971, quand nous avons créé l'Union de la Gauche, j'étais déjà un personnage connu puisque j'étais député suppléant. Et en 1962, les choses se sont passées de la façon suivante. À ce moment-là, la circonscription, il y avait à la fois Vénissieux, Villeurbanne et Bron. Et c'est Marcel Houël qui conduisait la liste avec moi comme suppléant. Lui titulaire, moi suppléant. Et nous avons mené cette élection avec peu d'espoir de la gagner. Peu d'espoir de la gagner parce que le candidat de gauche, mais qui était de droite dans la tradition habituelle, c'était Gagnère. Gagnère, le maire de Villeurbanne. Vous êtes élu, on ne peut pas imaginer ce que ça représente, être élu député. Nous, on pensait que peut-être on aurait des ministres, que, ou elle serait ministre, que je serais le député titulaire en fonction. Bref, premier soir, discours, ah bon, déjà, Pestourie, victoire, l'enthousiasme. Quand on va à Villeurbanne, discours de Pestourie, là-bas on avait battu Gagnère, alors je me suis régalé un peu de ce succès. Et puis après nous allons à Vénissieux. Et à Vénissieux c'était l'émotion là-bas, parce qu'il y avait la maman de Marcel Houël, une vieille personne qui était là, la mémé, qui était venue saluer l'élection de son fils comme député, pensée député. Et alors là c'était l'apothéose, le discours de Pestourie. Et alors on me ramène ici à Bron, un peu éméché, il faut bien le dire, un peu éméché. Et alors, d'habitude, quand je rentrais un peu tard, je regardais que tout soit éteint. Et je disais, au moins, tu peux rentrer tranquille. Mais là, il y avait une clarté, le couloir était éclairé. J'ouvre la porte, et j'ai ma femme qui était couchée, qui rampait. Elle est venue. Elle m'a dit, Roger, ça fait deux fois que tu me manques. Parce que j'avais promis à ma femme que nous ne serions pas élus. J'ai dit, je suis candidat, mais j'ai aucune chance d'être élu. Et à minuit, on avait la radio, la télé, la préfecture là-bas. Il paraît que le préfet est descendu. Il a dit, vous rendez compte, Pestouri est élu avec Ouel. Enfin, c'était une catastrophe. Et ma femme avait entendu ça. Et ça a été terrible. Et ça fait deux fois que tu me manques. Et cette femme, elle s'était rappelée que 25 ans, plus de 20 ans, je l'avais trompé lorsque je l'ai connu, que je m'appelais Guy Poujade au lieu de m'appeler Roger Pestouri. Et quand je lui ai dit à la Libération, je ne m'appelle pas Guy Poujade, je m'appelle Roger Pestouri, elle m'a dit, dire que j'ai couché avec un fantôme pendant des mois. Eh bien ça, 25, 28 ans après, elle s'en était rappelée. Faut jamais mentir à une femme, vous voyez. Mon bonheur, c'est d'avoir eu cet accompagnement de cette femme qui a été si malheureuse ce soir de mon élection comme députée. Ça a été quelque chose qui m'a marqué profondément parce que une femme, quand c'est votre femme, que vous êtes un homme public, elle m'accompagnait partout dans mes réceptions, partout où nous allions, et c'était Madame Pestouri. Madame Pestouri, c'était une très jolie femme, une très belle femme, très distinguée, très cultivée, et elle faisait l'exemple de tout le monde. Et l'hommage que m'a rendu la ville de Bron, l'hommage, c'est que quand cette femme est partie en 1983, quand elle est partie, elle était en cardiologie. Chez nous, il y a une coutume, les morts, on les garde chez nous, on les ramène chez nous. Et on les garde 2-3 jours, disons, pour faire notre travail de deuil, notre apprentissage de ce travail de deuil. Et j'ai fait ramener ma femme, c'était le vendredi, et quand ma femme, on l'a ramenée là-bas de cardiologie, il y avait tout le conseil municipal de réunis. Et ma femme est rentrée au milieu des élus, dans sa maison. Dans sa maison. Ça, on l'oublie pas, ça. Et mon ami Souzy, qui avait organisé ça, je lui en rends hommage. Et il s'en est fait écho, d'ailleurs, dans le livre qu'il a publié. Eh bien, ça, ce sont des choses que l'on n'oublie pas. C'est peut-être la raison pour laquelle, lorsque je parle de mon activité politique, de mon activité d'élu, j'associe toujours la femme et les femmes. Parce que j'ai eu besoin de ce parfum de la femme, de la présence de cette femme qui a été la mienne, peut-être pour faire ce parcours qui a été le mien et qui se poursuit par les activités qui sont les miennes. Voilà ce que je voulais dire.
Roger Pestouri, je vous remercie.
Le petit joueur de flûteau menait la musique au château. Pour la grâce de ses chansons, le roi lui offrit un blason. Je ne veux pas être noble, répondit le croque-note. Avec un blason à la clé, mon la se mettrait à gonfler. On dirait partout le pays, le joueur de flûte a trahi.
Et mon ainsi se termine le sixième entretien réalisé avec Roger Pestouri, celui-ci sur le thème 42 ans élu communiste à Bron. Vous avez pu entendre successivement une série d'illustrations musicales, toutes les chansons de Georges Brassens qu'il interprétait lui-même, soit les versions entières, soit des extraits. Il s'agissait successivement des Sabots d'Hélène, de La Marche nuptiale, de L'Attendu, de Il suffit de passer le pont, de La Rose, la bouteille et la poignée de main, de Rien à jeter, et que vous entendez en fond sonore ou sur mes paroles, du petit joueur de flûteau.
Des aïeux de qui je descends, on me verrait bouder dessus. La branche dont je suis issu, je voudrais un magnifique arbre généalogique, avec du sang bleu à la clé, mon la se mettrait à gonfler. on dirait partout le pays. Le joueur de flûte a trahi.
Son frère, son enfant, quand un humain sans femme, c'est biston, claque. C'est pas de la rengaine à gaver les enfants, pas des tubes que reprennent les gros gaillards d'avant. C'est des mots qui nous disent que tout n'est pas joué, que le feu qu'on attise construit l'éternité. Quand il chante la femme, son frère et son enfant, quand un humain sans flamme, c'est biston, claque. Mais qu'on les claque. Quand le fascisme avance en main mettre de gants, il est temps qu'on repense et qu'on attaque. C'est pas par nostalgie du grand soir de Pépé, on brûle pas les bougies que mes mères adoraient. Mais y'a des mots pour dire que tout n'est pas joué, que le feu qu'on attire construit l'éternité. Quand les cons se redisent, ils noircissent le printemps, aucune chance qu'on les vise, mais on les claque. Biston, claque. sans flamme, c'est Biston Club. C'est pas de la rengaine, à gaver les passants, pas des tubes que reprennent les gros gaillards d'avant. C'est des mots qui nous disent que tout n'est pas joué, que le feu qu'on attise construit l'éternité. Quand il chante la femme, son frère et son enfant, quand un humain s'enflamme, c'est Biston Club.